le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Fou d'histoire pour donner la parole à ceux, à celles qui ne sont pas historiens, pas historiennes, mais qui pensent le passé pour construire le présent, en musique notamment, chef d'orchestre, chef de chœur. Laurence Equilbet est folle d'histoire. C'est une histoire où l'on croise la Forêt Noire et la Légion d'honneur, des fresques chorales et des pages allemandes, où l'on croise aussi Bach, Beethoven, Louis Farinck et évidemment Mozart.
Deuxième mesure, quatrième temps, Ré.
Maledictis.
Très bien.
Oui, continuez.
Deuxième temps de la quatrième mesure, en fa.
Flammis acribus addictis, flammis acribus addictis.
Maintenant l'orchestre. Second basson, trombone, basse, avec les basses notes identiques, même rythme. Premier basson, trombone ténor, avec les ténors.
Vous allez trop vite.
Est-ce que vous y êtes ?
Vous allez trop vite.
Est-ce que vous y êtes ?
Un petit clin d'œil au film de Milos Forman. Nous y sommes en 1984, Amadeus. Bonjour Laurence Equilbet.
Bonjour.
Nous entendons ici Mozart, mais aujourd'hui entendons-nous Mozart comme nos ancêtres ont pu l'entendre ?
Écoutez, de plus en plus, enfin, il y a toujours des compromis, évidemment. On ne peut pas tout à fait retracer toute l'époque de ce compositeur. Mais d'ailleurs, dans ce film, Milos Forman, que j'aime beaucoup, il y a beaucoup d'erreurs historiques, on veut dire. Donc, ça continue à véhiculer l'idée de la commande mystérieuse, de ce mystérieux homme en noir, et puis du fait que Salieri aurait empoisonné Mozart, ce qui est totalement faux, même si lui-même, Salieri, sur son lit de mort, il le disait parfois qu'il avait empoisonné Mozart, il est mort fou. Hein. Donc voilà, mais c'est vrai que grâce à des pionniers comme Nicolas Hardencourt, Gustave Léonard, qui ont essayé de rechercher cette dimension historiquement informée de l'interprétation de la musique, avec tous les compromis que ça peut supposer, je pense qu'on est quand même plus proche aujourd'hui du Mozart tel qu'il devait être joué à l'époque, avec ses instruments justement d'époque. Moi-même, je dirige un orchestre qui joue sur instruments d'époque, ce qui sont souvent des copies d'ailleurs, mais je pense qu'on se rapproche d'une forme de compréhension de ce style, et ça vaut aussi pour les époques d'avant. Je pense que depuis les années 60, on a énormément progressé dans le respect d'abord de l'œuvre, avec aussi une part personnelle, évidemment, de l'interprète. On ne pourra jamais être exactement comme à l'époque. Et puis l'intérêt, c'est d'ailleurs que les œuvres résonnent dans notre temps. Je parlais tout à l'heure d'Hardencourt, et qui était même encore plus radical. Lui, il disait que si une œuvre ne résonne pas dans notre temps, si on ne trouve pas cette clé de résonance, c'est même pas la peine de l'interpréter.
Ah ben voilà, c'était lui, effectivement radical.
Oui.
Insula Orchestra, c'est cet orchestre, le vôtre que vous évoquez, Laurence Equilbet. Et dans cette réflexion sur que pouvaient entendre nos ancêtres, il y a tellement de paramètres. En fait, vous avez évoqué l'instrument, c'est une chose. Il y a le lieu lui-même, là où se place l'orchestre. Tout ça, ce sont des réflexions à prendre en compte parce que ça a évolué dans le temps. Et puis là, pour Mozart, c'est sûr que les évolutions sont majeures.
Oui, ça a beaucoup évolué. Et alors aussi, dans ce retour aux sources, il y a aussi beaucoup de fausses nouvelles, c'est-à-dire de fake news, dans le sens où on s'est dit tout d'un coup, ah oui, l'interprétation historique, c'est des tout petits effectifs. Alors en fait, ça c'est faux. Par exemple, il y a des scientifiques qui ont prouvé que si on voulait retrouver le niveau sonore de l'époque des auditeurs, il faudrait multiplier la Philharmonie de Berlin par 5, l'orchestre de la Philharmonie de Berlin, par 5. Donc les salles étaient petites, et quand par contre il y avait des grandes salles, comme par exemple la salle de la Redoute à Vienne, il y avait une technique de double orchestre ou de triple orchestre, où on mettait un nombre très conséquent de cordes et on doublait, voire triplait tous les vents. Et donc il y avait un chemin de tutti et soli qui fait qu'il y avait toujours la puissance que les auditeurs aimaient à cette époque.
Oui, parce que le goût est là aussi, et le goût est très difficile à mesurer. Alors là, les sources laissent des traces, mais comment retrouver le goût, et puis comment retrouver la composition elle-même rendue sous forme de son. Ça, c'est très difficile aussi. Comment vous travaillez-vous pour essayer d'être au plus proche de ce que pouvaient entendre tous ces gens?
Déjà, Il faut, c'est pour ça que la démarche historiquement informelle est intéressante en ce sens que on étudie beaucoup aussi le contexte, la genèse des œuvres et dans quel contexte aussi politique, dans quel contexte historique, dans quel contexte religieux, ou quels sont les enjeux de sa création, etc. Est-ce que ça a un rapport aussi avec la vie elle-même du compositeur ? Enfin, il y a beaucoup de facteurs, indépendamment du style lui-même de la partition en tant que art. Et d'ailleurs, il y a Carl-Philipp Emanuel Bach qui parlait justement du goût dont vous parliez tout à l'heure, et qui essayait de faire une sorte de cartographie nationale des compétences de chaque pays et qui louait par exemple l'exubérance italienne, qui louait la radicalité et la profondeur germanique et qui situait la France entre les deux. Donc c'est plutôt sympathique.
Oui, c'est bien.
Il y avait un peu des deux dans la France.
Voilà, un peu de tempérance dans cette histoire. Vous avez cité Nikolaus Harnoncourt, chef d'orchestre autrichien. Dans cette histoire-là qui nous intéresse, le rôle du chef et de la chef d'orchestre, ben, c'est là, au cœur de la recherche du son. C'est très beau d'ailleurs de réfléchir comment vous, à la tête de toutes ces personnes, vous vous dites, on va essayer de mettre en place quelque chose, mais l'aventure est très difficile. Comment vous procédez ? Alors, vous l'avez dit, il y a chercher les sources, être au plus près des sources. Elles sont nombreuses ?
Les sources musicales, oui, elles sont nombreuses. Et alors, on a parfois le manuscrit. Quand on a la chance, on peut avoir trouvé le manuscrit ou en tout cas une copie de ce manuscrit. Mais souvent, il y a aussi les premières éditions qui sont les plus intéressantes. C'est là parce que les compositeurs, moi, pour avoir fait aussi beaucoup de créations contemporaines, travaillent beaucoup pendant les premières productions. Ils disent, ah non, ça, je change. Et en fait, ce qui est très intéressant dans les sources originales, les hors-textes, comme on dit, c'est de trouver vraiment plusieurs sources parce que c'est pas forcément le manuscrit qui a la voix principale. Vous voyez, il peut y avoir vraiment, au contraire, des éditions plus tardives, des premières exécutions qui sont vraiment, par contre, plus scientifiques par rapport à la volonté du compositeur.
Bah dites donc, recherche des sources, confrontation des sources, vous êtes un peu historienne, en tout cas, c'est une démarche d'historienne que vous avez.
Oui, tout à fait, on a beaucoup de musicologues d'ailleurs qui accompagnent le projet d'Insula Orchestra, parce que, effectivement, cette question d'être plus proche de la volonté du compositeur, elle est, comme vous avez dit tout à l'heure, sujet à caution pour souvent, et donc il faut croiser des sources, prendre des décisions, et notamment, par exemple, on parlait de Mozart tout à l'heure, il y a aussi des œuvres inachevées, donc il s'agit de les compléter, comment on les complète, etc. Par exemple, le Requiem de Mozart, c'est assez intéressant parce que il a été donc complété et par Süssmayer, un des élèves de Mozart, mais d'autres ont voulu aussi s'y essayer. Alors, quelle version on prend ? Et finalement, quand une version comme celle de Süssmayer a résisté pendant 200 ans, on se dit que finalement, elle est assez bonne, en fait.
Elle est assez bonne, mais il y a tout ce travail que vous faites encore autour de ce Requiem de Mozart, bon, inachevé bien sûr parce qu'il est mort, avec Yann Bourgeois, c'est quoi ce travail ? Comment vous procédez ? Là, vous vous dites, bon, nous avons un Requiem inachevé, essayons d'être bien dans notre époque, bien dans son époque, Insula Orchestra, c'est un peu la ligne de conduite.
Oui, tout à fait, avec Yann Bourgeois, d'ailleurs, on va redonner ce spectacle qui était vraiment magnifique en 2024, on s'est vraiment intéressé aux fragments originaux, voilà, en fait, on a vraiment joué uniquement ce dont on était sûr que c'était de la main de Mozart. Et donc, par exemple, le fragment le plus spectaculaire, c'est le Lacrimosa, qui est donc très connu dans le Requiem de Mozart, et dont Mozart n'aurait écrit que 8 mesures. Et donc, dans le spectacle, on fait ces 8 mesures, et effectivement, le choc de l'arrêt est bouleversant, parce qu'on sent bien que Mozart est là à la fin de sa vie, et que effectivement, ces 8 mesures, elles sont quasi sacrées pour les musiciens.
Bouleversant, vous venez de le dire, Laurence Equilbet, parce qu'il y a de l'émotion dans cette histoire-là. Vous êtes au plus proche de la création. Vous l'avez bien dit, il y a la création formelle, et puis il y a ce que cela donne lors des premières représentations. C'est vraiment ça, vous êtes sur l'annotation, sur le détail qui va vous permettre de ressentir peut-être un peu l'émotion d'un Beethoven ou d'un Mozart.
Oui, en fait, c'est très important, à mon avis, en tout cas, par exemple, chez Beethoven, c'est très important d'étudier tout l'environnement politique, parce que Beethoven était vraiment un compositeur engagé, avec beaucoup d'utopie, et donc, si on ne connaît pas bien l'histoire du siècle des Lumières, de quels sont les enjeux, pourquoi il était très proche à la fois de Joseph II, de Léopold II, de tout cet esprit des Lumières qui était aussi avant, à l'époque de Mozart, très très importante, avec les va-et-vient de la franc-maçonnerie qui était très bien vue pendant un temps, puis est devenue vraiment au contraire, même durant la vie de Mozart, a basculé complètement parce que les Autrichiens avaient peur, extrêmement peur de l'esprit de la Révolution française, donc ils s'en défendaient et donc c'est très intéressant de voir comment, par exemple, Beethoven a intégré toute cette volonté du siècle des Lumières avec ses utopies, son désir à la fois de rationalisme, quoique Beethoven était quand même assez croyant, et cet esprit de liberté, surtout cet esprit de justice qui transpire tout le temps dans l'œuvre de Beethoven, qui est magnifié par l'art, évidemment, dans l'œuvre de Beethoven. Donc si on... Par exemple, Beethoven est un compositeur qui, à mon avis, on peut pas tellement comprendre si on n'a pas un certain regard avec l'histoire européenne de cette époque.
Vous lisez donc les livres des historiens, des historiennes.
Oui, enfin, en tout cas, j'étudie, je suis pas historienne du tout, hein, mais j'étudie vraiment le contexte pour essayer d'en mesurer plus les enjeux et de voir comment cette transcendance des compositeurs a pu s'exprimer dans un cadre. Voilà, et par exemple, on a effectivement l'histoire aussi des religions qui est très importante. Est-ce qu'un compositeur écrit par conviction spirituelle ou bien est-ce qu'il écrit sous la commande d'un archevêque, etc. Et comment, par exemple, ce qui est très intéressant, c'est que à Salzbourg, par exemple, si on peut parler d'un moment de ça, Mozart, on le sait, était sous la coupe de l'archevêque Colloredo. Et à cette époque, on essaie de simplifier un peu les musiques religieuses parce qu'elles avaient pris un tour à l'époque baroque trop complexe et que l'Église, à ce moment-là, voulait simplifier les musiques à l'Église et notamment interdire trompette, timbales, etc. Et Mozart prenait un malin plaisir à faire le contre-pied. Et au contraire, par exemple, la fin des messes, le Dona nobis pacem, donne-nous la paix, il rajoutait des musiques de guerre exprès, enfin voilà, c'était un enfant, c'était un compositeur turbulent.
Un compositeur turbulent et bien vivant, parce que ces compositeurs, un peu figés aujourd'hui bien sûr, ont étaient vivants dans leur siècle. La démarche que vous avez, Laurence Equilbert, avec un Insular Orchestra, c'est aussi cela, c'est remettre du vivant dans cette histoire-là. Nous sommes loin d'une représentation de ce que ça a pu être, avec cette complexité du mot représentation. Nous sommes au plus proche de ce que ça a été.
Oui, tout à fait. En même temps, il faut faire attention à une chose, c'est que les contextes nationaux ou régionaux, je crois que c'est Kundera, il me semble avoir lu ça dans un de ses livres, qui ne servent à rien quand il s'agit de saisir le sens et la valeur d'une œuvre. Ça, c'est vraiment, il y a tellement une recherche d'universalité dans le geste artistique que ces contextes sont importants à connaître, mais après, il faut s'en détacher, il faut les mettre à distance.
Ouais, c'est très fort ce que vous dites là. Bien sûr, on ne peut pas séparer une création de son contexte, ça c'est une chose, mais la valeur universelle de l'œuvre est là. Et cette valeur universelle-là, vous trouvez que parfois, la patine du temps, eh bien, nous fait perdre la vision première. On peut penser à Beethoven ou à d'autres.
Oui, et ça c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup fascinée, parce qu'il y a une forme de liens kinésiologiques magiques avec le retour aux sources, c'est-à-dire qu'en général, quand on se rapproche le plus près du premier jaillissement d'une œuvre, en tout cas quand on essaye de s'en approcher, on s'aperçoit que l'œuvre résonne encore plus dans l'époque. Et c'est à peu près, par exemple, si on prend les symphonies de Schubert, à l'époque, au 19e, Brahms les découvre et la plupart n'ont pas été joués du vivant de Schubert. Et commence à noter le manuscrit, à dire, bah non, là, il s'est trompé, faut pas orchestrer comme ça, là, je ferais plutôt comme ça. Enfin, c'est quelque chose qui nous paraît très inimaginable. À l'époque, on met des gants de latex pour manipuler la moindre archive. Et donc, ça, Et donc, on a joué beaucoup Schubert à la Brahms pendant des années et des années. Vous voyez, donc, et tout d'un coup, des gens, notamment comme Harnoncourt et quelques pionniers des années 60, on se sont dit, mais en fait, non, c'est pas ça que voulait Schubert. Et il y avait une épure, il y avait quelque chose d'assez, justement, anachronique et c'est Schubert qui a introduit le Lied pratiquement, juste après Beethoven, le Lied romantique apparaît et c'est, le Lied, c'est toujours quelque chose d'anachronique. Donc, on y parle d'amour, on parle de quelque chose qui est historiquement insaisissable. Et donc, c'est finalement très intéressant de voir que ces pionniers des années 60 ont essayé de retrouver l'esprit schubertien qui parle d'universel.
Schubert, mais pas que. Schubert qui croise Strauss, qui croise Beethoven, une réalisation d'Alexandre Manzanares qui réalise aussi l'émission Le cours de l'histoire sur France Culture avec aujourd'hui à la technique Grégory Wallon. Alors, dites-nous Laurence Equilbet, quand vous entendez ici un dialogue qui s'opère avec des interprétations que vous pouvez commenter de Schubert, de Strauss et de Beethoven, vous avez quelle lecture vous de ce qui est proposé ou ce qui a été proposé pendant longtemps de ces grandes œuvres? Vous trouvez qu'elles ont été proposées de manière transformée par le temps, en oubliant complètement ce que ça a pu être?
Moi, je pense que ça a été effectivement peut-être fin 19e transformé par ce geste un peu personnel des interprètes à la fois et des compositeurs qui se sont emparés, comme on dit maintenant beaucoup avec ce mot à la mode, des œuvres. Et on voit bien que dans l'interprétation, c'est un balancier, c'est-à-dire qu'il y a des époques où on prend les œuvres et on en fait un peu ce qui nous parle, et puis d'autres où on se met un peu plus en tant qu'interprète à distance et qu'on essaye de retrouver l'art premier, c'est-à-dire cet art qui appartient à l'inconscient et qui n'aurait pas été fabriqué et qui n'appartient à personne et qui jaillit par lui-même. Et c'est-à-dire un peu ce naturel originel. Mais ce qui est intéressant aussi, j'entendais le Nachtun Träume de Schubert, là, chanté par Bostridge, ça c'est pas très sympa de mettre ça dès le matin, là. Ça nous plonge dans des abîmes de nostalgie. C'est-à-dire que ce phénomène du lead, il est important parce que il tient. Enfin, je crois que c'est Roland Barthes qui a fait toute une émission sur le lead romantique. D'ailleurs, que je vous engage à écouter parce que c'est un amoureux du lead romantique, donc il en parle avec ses mots très 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 bien. Et il dit notamment que c'est la passion amoureuse qui déclenche le lead et qui tient son opacité historique parce qu'elle apparaît chez des sujets totalement marginaux qui sont complètement dépossédés de l'histoire et qui sont surtout écartés de tout pouvoir parce qu'on sait bien que l'histoire a un rapport très, très net avec le pouvoir et que le lead pouvait être chanté par toutes les classes, c'est-à-dire du peuple à l'aristocratie et qui était une musique, je crois qu'il l'appelle ça, sans insolence, et qu'on pourrait mettre au rang des arts extrêmes. Donc c'est très intéressant, toute cette grande époque du lead, qui après va déboucher sur la mélodie française, qui deviendra autre chose. Mais, et d'ailleurs là, il y avait aussi la fin des quatre derniers leaders de Strauss, qui à l'origine est un lied avec piano, hein, qui a été orchestré par Strauss lui-même et qui véhicule cette même sensation d'universalité.
Le lied, c'est la chanson. C'est allemand, enfin, dans son origine.
Oui, oui, à l'origine, c'est allemand, mais c'est vraiment quelque chose qui est venu, d'ailleurs, plus du moment romantique, parce que, en fait, ce qui manque au romantisme, c'est le peuple, finalement. Et donc, le romantisme intègre beaucoup dans ses œuvres. Ça nous amènera d'ailleurs peut-être à parler de la ritournelle, qui est quelque chose de très territorial, mais apporte dans ses œuvres l'idée d'un chant populaire.
Oui, c'est ça aussi, hein, ce dialogue sans cesse entre ce chant qui est placé alors au piédestal de la musique aujourd'hui, alors qu'il y a quelque chose d'extrêmement populaire dans toute cette histoire-là. Quand nous avons écouté Schobert, Laurence Equilbet, vous avez évoqué la nostalgie, pourquoi ?
Oh ben, si vous voulez, le lied ou ce genre de chant extrême, d'art extrême, ça emporte toujours un peu de terre avec lui. Il y a quelque chose de spirituel qui est essentiel avec le natif. Donc forcément, ça nous renvoie à notre propre enfance. C'est les fameux blocs d'enfance dont parlait Deleuze. C'est-à-dire que ça nous renvoie à quelque chose de primitif et d'antérieur. Et donc ça, c'est toujours bouleversant pour nous, je crois.
Allez, un petit bloc d'enfance.
On m'avait dit, allez donc voir en Allemagne comment vit l'armée française. J'ai choisi d'aller à Fribourg. Fribourg-en-Brisgau, vous savez, cette grande ville au pied de la forêt noire. J'ai choisi Fribourg, d'abord parce que ça vaut le coup d'œil, n'est-ce pas ? La cathédrale, les maisons bourgeoises à balcon, les maisons à encorbellement, du pur gothique allemand. Bien sûr, vous me direz, il faut aimer ça. Mais quand on a 20 ans et quand on est soldat, ça vaut quand même une caserne à Maubeuge, non ?
Ah, oh, ça, j'en sais rien. Je connais pas les casernes à Maubeuge. Nous étions en 1967 quand l'ORTF envoyait ses micros en Allemagne à Fribourg. 1967, mais dites donc, Laurence Equilbet, vous y étiez à Fribourg?
Oui, oui, tout à fait. J'étais à Fribourg parce que mon père était officier. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, vous savez qu'il y avait des Français et des Américains en Allemagne. Et donc, j'ai fait ma petite enfance en Forêt-Noire. Donc je pense que ça a participé de mon ADN général. Et effectivement, Fribourg, c'est une ville magnifique.
Quoi. En quoi ça participe de votre ADN, la forêt noire ?
Ben, y a cette forêt noire, justement, qui est très chère au monde romantique. On voit bien le Freischütz de Weber qui se passe en forêt. Il y a beaucoup d'opéras qui se passent en forêt. Il y a tous ces peintres qui ont peint la forêt noire. Et donc, c'est une ambiance, quoi. C'est quelque chose d'assez sombre, assez mystérieux, assez plein de promesses et plein de liberté et à la fois d'enfermement. Enfin, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent surgir dans cette forêt noire. Et puis, il y a cette culture allemande qui adore la musique. Et moi, j'étais bercée de musique dans ma petite enfance.
Oui, déjà, voilà, la musique était déjà là. L'histoire déjà aussi, enfant ?
L'histoire, naturellement, parce que pourquoi on est en Allemagne, quand on est français, etc. Donc forcément, on vous raconte la Seconde Guerre mondiale. J'ai notamment mon grand-père qui est mort à la guerre en juin 1944. Voilà, un autre qui était au contraire anticommuniste. Et voilà, donc il y a beaucoup d'histoires dans les histoires familiales qu'on nous raconte. Et moi, j'étais frappée justement de voir que mes deux grands-pères, l'un était mort, mais n'aurait pas pu se parler à cette époque.
Ah oui, ça c'est très fort toujours d'essayer de comprendre quand on est gamin ce qui peut se passer dans les tensions familiales. C'était quelque chose qui revenait souvent lors des repas de famille, évoquer le passé.
Oui, mais à la fois c'était un peu tabou. Parce que il y avait à la fois un poster de De Gaulle et puis l'autre qui aurait dit enlevez-moi ce poster, quoi. Donc c'est pas évident. Et puis après il y avait la guerre d'Algérie qui, comme vous savez, n'a pas été enseignée à l'école jusqu'à moi, quand j'ai passé mon bac, on n'enseignait pas la guerre d'Algérie, donc on en parlait un peu sous le manteau. Donc aujourd'hui c'est assez différent.
Oui, et d'ailleurs la guerre d'Algérie a une incidence sur votre vie par rapport à votre père, hein.
Oui, ben mon père donc est officier, a fait la guerre d'Algérie, et donc effectivement cette question d'Algérie française ou non, et puis ensuite de cette scission avec l'OAS, etc. Donc ça, c'était aussi quelque chose dont on parlait peu dans les années 60-70, et que j'ai découvert plus tard, en fait.
Nous savons souvent que dans ce monde militaire, il y a des traditions véhiculées, des histoires. Est-ce que, de la part de votre père notamment, il y avait cela, vous savez, ce passé glorieux qu'on pouvait raconter ?
Écoutez, non, pas trop chez moi, en tout cas. C'était plutôt une ambiance pas trop stricte, comme certains autres militaires peut-être le sont chez eux. Donc c'était plutôt plus libéral dans ma famille.
Alors attendez, celui qui avait le portrait de Gaulle, c'est plutôt côté paternel ou maternel?
Oui, paternel.
Paternel, et côté maternel, non, pas de Gaulle.
Disons qu'il y a toujours cette ambiguïté que... Enfin, c'était vraiment... par souci d'anticommunisme, l'idée que de Gaulle aurait laissé les communistes prendre le pouvoir, etc.
Vous êtes à Fribourg, vous êtes jeune fille, et vous écoutez déjà de la musique. Il y a, moi, quelque chose qui m'intéresse dans votre parcours, c'est que le choix de la musique est déjà magnifique à comprendre, mais l'idée de repartir aux origines même d'une musique et de ce qu'il y a de plus proche, ça paraît à quel moment, ça, dans votre histoire ?
Ça apparaît dans mes études viennoises, en fait. C'est-à-dire, donc dans les années 90, donc je découvre Vienne, j'étudie à Vienne la direction et le chant. Et effectivement, par exemple, le style classique était un style qui m'ennuyait profondément, moi, quand j'étais jeune musicienne. Et là, je découvre Arnoncourt et son talent et surtout son intuition et le côté très à la fois intellectuel mais aussi très sensible, et il me réveille dans Beaux-Arts. Voilà. Et il me réveille dans Haydn surtout, qui est un compositeur qui m'ennuyait. Et là je découvre aussi le sens des figures du style de la rhétorique aussi, qui est déjà d'ailleurs beaucoup dans le baroque, hein. Donc je redécouvre en fait les enjeux de cette musique. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle ne veut pas dire? Qu'est-ce qu'elle construit? Parce qu'il y a aussi beaucoup de formes, de choses formelles dans la musique qui est abstraite. Et moi, je suis à moitié normande par mon père, et donc j'ai des ascendances celtes. Et vous savez que les Celtes, c'est un peu les champions du monde abstrait, hein. Et donc moi, j'aime beaucoup l'abstraction aussi. Donc j'ai une passion pour la projection des formes musicales. Et d'ailleurs, là, je suis en train de faire avec des amis dans la VR une projection de ce qu'on appelle la forme sonate dans la musique en VR 3D, et que les gens vont pouvoir découvrir. Je pense que il est urgent aussi de comprendre que l'art appartient donc à cet inconscient, qu'il n'est pas forcément sentimental, et la musique, elle peut avoir aussi un nombre d'or. Vous voyez, comme Bartok était fasciné d'ailleurs par le nombre d'or, il l'a beaucoup appliqué dans sa propre musique. Et donc, cette forme sonate, qui est une forme comme un patron, on dirait, en couture, elle a irrigué tout le 18e siècle et pratiquement tout le 19e siècle. Donc, qu'est-ce que c'est que cette forme, et comment est-ce qu'on peut la projeter en trois dimensions?
Ça, c'est la belle référence imagée de la musique, avec des clins d'œil à des compositeurs extrêmement connus, Jean-Sébastien Bach.
Bonsoir, mes amis.
Allons-y, Doc. Asseyez-vous par terre.
Comme avant, et pas de surprise. C'est quand vous voulez, sergent Pembry.
Les variations Goldberg de Bach, mais dans Le Seigneur des Anneaux, le film de Jonathan Demme en 1991. C'est aussi tout cela, cette musique, c'est ce sentiment, ce souvenir. Il n'y a pas la conscience de l'abstraction, de tout ce que vous dites, c'est-à-dire ce que vous connaissez en tant que chef d'orchestre, et vous arrivez à décrypter les choses. Nous, quand nous recevons la musique, en tout cas c'est mon cas, c'est quelque chose d'autre. Cet écart-là n'est-il pas parfois difficile à gérer, c'est-à-dire, est-ce que vous arrivez parfois à vous sortir de cette lecture technique et juste savourer?
Oui, oui, tout à fait. D'abord, il y a plusieurs degrés d'analyse. Vous avez une analyse formelle de l'harmonie, comme on a fait une analyse grammaticale d'un texte, par exemple, ça. Et puis après, vous en détachez, et puis vous êtes plus sur le ressenti, sur la grande forme, la sensation macro qu'ont les gens du public. Donc c'est très important de l'avoir. Mais à mon sens, c'est pour ça que j'insiste sur la projection de la forme, parce que le public, avant tout, il va recevoir ça. Il va avoir une image sonore dans l'espace, voilà. Mais après, on parle d'histoire. Moi, j'aime beaucoup aussi les petites histoires sur les œuvres, parce que je trouve qu'elles éclairent énormément. Et c'est ça que on essaye. J'ai aussi créé un chœur de chambre qui s'appelle Accentus, qui est un chœur professionnel, et avec aussi une sous-orchestra. On est maintenant très intéressé à transmettre ces fameuses ressources qui peuvent éclairer et donner une clé radicale pour l'interprétation d'une œuvre. Je vous donne par exemple un exemple prenons Schubert, on en parlait des leaders tout à l'heure. Il a écrit un très beau lead qui s'appelle Rosamund et qui est tiré d'une œuvre plus conséquente qui s'appelle aussi Rosamund. Donc c'est un chant à la lune, voilà. Et donc si on chante ce chant sans connaître d'où ça vient, on chante une jeune femme qui est un peu sentimentale et qui voue son amour à la lune. Et en fait, pas du tout. Ça vient d'une pièce de théâtre de Elwin von Schizy qui a écrit cette grande pièce. D'ailleurs, elle a eu 5 jours de répétition uniquement à l'époque au Burgtheater, et donc tout le monde a trouvé ça nul, mais en fait parce qu'elle n'avait pas de répète, c'était tout. Et donc on s'aperçoit qu'en fait ce chant à la lune, c'est une femme de pêcheur qui le chante parce que sa fille de 18 ans, qui est une princesse cachée, va partir. Donc en fait c'est une vieille dame qui parle à la lune, et ça, tout d'un coup, si vous savez ça, c'est totalement différent comme interprétation, vous voyez. Donc c'est pour ça que nous aussi, musiciens, on recherche beaucoup, quand je parle de contexte, c'est pas forcément toujours historico-politique, c'est aussi le contexte de la gestation de cette œuvre, le contexte du théâtre, le contexte de la petite histoire autour de cette œuvre.
Oui, parce que l'historien, historienne ressentent l'émotion quand ils trouvent le document. Vous avez cette émotion-là, vous aussi, quand vous trouvez un élément de compréhension.
Ah bah oui, ça s'appelle des pépites chez nous. C'est-à-dire, par exemple, vous avez le début de la 4e symphonie de Schumann qui commence par une sonnerie de cuivre. Et en fait, on s'aperçoit que Schumann a été fan d'un poème et qu'il a exactement pris les deux phrases qui annoncent le printemps dans ce poème et qu'il a fait la cantillation. C'est-à-dire qu'il, si vous pourriez chanter le texte sur la mélodie. Vous voyez, c'est strophique, c'est syllabique. Et donc, quand on trouve cette information, on est tout content parce que du coup, ça, on sait quoi dire. Et il y a, par exemple, l'histoire aussi de la symphonie inachevée de Schubert. Et des tas de théoriciens musicologues disent que c'est pas du tout inachevé. En fait, c'est d'abord un rêve qu'aurait fait Schubert. Et donc, où il voit il est sur la tombe de sa mère et qu'ensuite, il y a son père qui est là. Et donc, un mouvement est pour le père et l'autre pour la mère. Et donc, en fait, c'est un diptyque qui n'a rien inachevé. Ouais. Alors, Ça change votre interprétation.
Ça change l'interprétation. Et puis, même en tant que public, connaître l'intention de départ, ça permet aussi de saisir peut-être des mouvements beaucoup plus vastes. Moi, je pense à la 3e symphonie de Beethoven, Héroïque. Quand on sait ce que c'est, que c'est dédié à Bonaparte, et ensuite, eh bien, il efface Bonaparte, c'est plus intéressant.
Oui, oui, tout à fait. Bah, après, il a universalisé justement aux hommes héroïques, aux hommes et aux femmes héroïques, parce que effectivement, quand Napoléon s'est mis à envahir Vienne, c'était beaucoup moins son champion, et donc finalement il a barré la dédicace plus tard. Mais c'est vrai qu'en plus Beethoven aime les figures héroïques, hommes et femmes. D'ailleurs, il a écrit beaucoup d'œuvres qui célèbrent les femmes héroïques. Bah, évidemment, Fidelio, qui est donc une femme qui va libérer son mari dans les prisons. Il y a aussi cette fameuse Clara dans Egmont qui va aider Egmont dans son combat. Et puis il y a aussi Léonore Prohaska, qui est une musique de scène formidable et qui est une femme soldat en Pologne. Voilà, et donc Beethoven aimait beaucoup les figures héroïques.
Il a aimé Bonaparte, il n'a pas aimé Napoléon. Napoléon qui a institué la Légion d'honneur.
En fait, je pense qu'une femme comme vous, qui a été élevée à la maison de la Légion d'honneur et ensuite par les Dominicaines, emploie très souvent des mots comme con, cul, c'est tout de même un peu surprenant.
Bah écoutez, je sais pas, Rabelais l'a fait avant moi.
Oui, bah il n'est pas passé chez les dominicaines.
Non, mais enfin quand même, je veux dire que l'emprise religieuse était beaucoup plus grande que celle qu'on a eue nous. Oui. Je crois que l'éducation répressive est une excellente chose.
Et qu'est-ce que vous faisiez à la Légion d'honneur, à la maison de la Légion d'honneur?
Bah je faisais ce que je pouvais, c'est-à-dire qu'on m'avait pas demandé mon avis et on m'avait mis là pour me mater.
Mais comment ça se passait on...
Ah mais c'était une éducation absolument comme du temps de Napoléon, abominable, où on était en uniforme, où on marchait au pas, où on allait saluer les couleurs, le lever aux couleurs tous les matins. Où,
ah, je vous vois bien en ce moment.
Et où on n'avait pas le droit de se tutoyer parce qu'on nous disait, vous ne savez pas plus tard quelle sera votre condition sociale, et il serait gênant peut-être de rencontrer une compagne inférieure qui vous tutoie dans la vie. Voilà, c'est la Légion d'honneur.
Je suppose que vous n'aimez plus beaucoup Napoléon depuis...
Ah, j'ai une terreur de Napoléon parce qu'en plus ça, il apparaissait dans les couloirs. Et moi, j'avais 11 ans, j'étais terrorisée à l'idée de rencontrer Napoléon.
C'est l'écrivaine Geneviève Dornemann en 1977 qui discutait avec Bernard Pivot, donc écrivaine ancienne de la Légion d'honneur. C'était à Écouen. Vous, Laurence Équilbet, c'était la Légion d'honneur, mais Saint-Germain-en-Laye.
Ah oui, non, bah, du tour d'Écouen, je peux imaginer que c'était assez sévère. Moi, j'ai fait en fait l'équivalent du collège. Hein. Après, j'étais à Metz, mais donc c'était à Saint-Germain-en-Laye. Oui, c'est les. Les demoiselles de la Légion d'honneur étaient à Saint-Germain-en-Laye. Alors c'était assez sévère, mais il faut dire qu'il y avait quand même, je crois qu'on était 300 jeunes filles, et donc en pleine adolescence, vous voyez, donc c'est évidemment il faut quelques règles. Mais moi j'étais assez enfant turbulent, et donc la musique m'a aussi beaucoup aidé à avoir une forme de liberté personnelle. Et donc ça c'était très important pour moi. Mais effectivement on était en uniforme, alors voilà, il y avait plus le salut aux couleurs, ça non, mais c'était laïque complètement, donc il y avait plein de religions représentées, et puis il y avait beaucoup de musique, ça c'était vraiment aussi formidable.
Oui, parce que là, pour vous, la musique dans ces années-là, c'est les années 1970, hein, pour vous, ouais, vous étiez à Saint-Germain-en-Laye, à la maison de la Légion d'honneur, il y a le côté autoritaire, mais à vous écouter, j'entends bien que c'est l'autorité qui permet aussi de chercher des échappatoires.
Je pense que ça a aussi favorisé mon côté frondeur, parce que quoi de plus amusant que de fronder une autorité.
Ça, je suis bien d'accord. Et l'omniprésence de Napoléon, parce que Geneviève Dornemann disait que, ah non, plus Napoléon, elle ne peut plus le voir. Non, vous, ça va?
Non, là, franchement, à cette époque, en tout cas, il n'était pas forcément valorisé. On connaissait l'histoire, que c'est lui qui avait créé ces pensionnats pour jeunes filles, pour pupilles de la nation d'ailleurs en fait à l'époque. Donc ce qui est et après, ensuite ça s'est élargi aux enfants qui ont eu de parents ou grands-parents qui ont eu la Légion d'honneur, et à cette époque déjà la Légion d'honneur n'était plus que par le fait militaire, et elle récompensait aussi des personnes de la vie civile, des grands diplomates, et donc il y avait surtout un milieu social assez différent, parce que vous pouviez avoir un ancêtre qui a eu la Légion d'honneur, qui était un soldat, un simple soldat qui a été tué à la guerre.
Dans ces maisons de la Légion d'honneur, il y a un poids de l'histoire très fort, hein, ne serait-ce que par les bâtiments. Vous en étiez sensible?
Oui, alors le poids des bâtiments, c'est surtout à Saint-Denis, en fait, parce que à Saint-Germain, bon, il y avait quelques bâtiments anciens, mais tout la partie scolaire était dans un collège qu'on aurait pu avoir n'importe où, neuf. Hein.
Ouais. Et dans notre réflexion que nous avons avec vous, Laurence Équilbet, chef d'orchestre, chef de chœur, il y a cette notion de chœur, c'est-à-dire de beaucoup de gens. Et nous évoquons à l'instant la Légion d'honneur, et on sent que quand vous avez dit la musique, c'était un moyen de s'échapper, il y a quelque chose de très solitaire. C'est ce va-et-vient, en fait, sans cesse dans ce métier. Chef d'orchestre, c'est un peu seul avec beaucoup de monde en face. Chef de chœur, c'est un peu la même chose. La musique, c'était un moment solitaire à ce moment-là?
Oui, très solitaire, parce que je faisais à la fois du piano, de la traversière, et puis j'étais dans la maîtrise. Il y avait une maîtrise aussi. Et on sait que c'est important, les maîtrises. Hein. D'ailleurs, encore un peu d'histoire, elles ont été supprimées à l'époque de la Révolution française, toutes les maîtrises, parce qu'elles étaient reliées à des églises. Et donc, on a mis quelques temps musicalement à s'en remettre. Et en tout cas, à cette époque, il y avait une petite maîtrise, donc je faisais aussi beaucoup de chants, et je pense que ça a aussi marqué mon désir futur.
Oui, le désir futur de se plonger dans, moi, ce qui me passionne, hein, ce regard du présent porté sur le passé de cette musique-là, avec la prise de conscience de tout ce qui a été gardé et tout ce qui a disparu. combien de compositeurs ont disparu, combien de compositrices aussi.
Oui, bah ça, vous avez raison de le souligner. C'est-à-dire que l'histoire, parfois, efface des créateurs et des créatrices. Et ça, justement, nous, ça nous intéresse beaucoup, à la fois avec Accentus et à la fois avec Insula Orchestra, de revenir à de lutter contre cet effacement. Et récemment, d'ailleurs, on a c'est pas qu'on l'a redécouvert, parce que c'était une compositrice qui est quand même repérée, mais enfin, Louise Farin, qui est une Française, et qui est... L'histoire encore la porte, parce qu'elle a beaucoup étudié avec Anton Reschat, qui était un des contemporains de Beethoven, qui était installé en France. Et puis, cette histoire de sa famille, qui était très moderne à l'époque. Ses parents n'étaient pas mariés, alors qu'ils avaient deux enfants. C'est une famille de sculpteurs. D'ailleurs, son frère a sculpté le petit génie de la Bastille. Et c'est les premiers. Elle s'est mariée avec un flûtiste qui l'a beaucoup, beaucoup encouragé à composer, et qu'il a composé pour l'orchestre et à se faire jouer. Et donc ce couple-là est les premiers aussi à avoir édité de la musique ancienne. Donc ça, c'est vraiment des précurseurs. Et effectivement, Louise Farin, qui était aussi professeure de piano à l'époque au Conservatoire de Paris, est compositrice. Elle a été réputée avec ses deux titres dans le dictionnaire, au milieu du 19e siècle, et à la fin, elle a été effacée, on disait juste professeur de piano. Donc effectivement, nous, si l'œuvre est bonne, c'est vraiment notre rôle de se battre contre cet effacement, et surtout contre l'effacement des créatrices, parce qu'elles sont plus effacées que les créateurs, et surtout aussi en France, où franchement, en Allemagne par exemple, on dit oui, la musique allemande c'est très exceptionnel, ça, mais il faut comprendre que les Allemands, à peine ils ont un compositeur de moyens, ils en font une star locale, vous voyez, donc c'est tout à fait une démarche différente, et nous, heureusement en France, on a quand même eu, grâce notamment à Vincent Bertillon-Court, ce dynamisme pour le Centre de musique baroque de Versailles, qui a révélé énormément de très grands compositeurs français du 17e siècle, et qui sont d'ailleurs très, très, dont l'œuvre est très reliée à l'histoire, parce que reliée à Versailles notamment. Et on a eu ce dynamisme heureux dans les années 90-2000 qui a fait que tout d'un coup la France est revenue un peu dans la conversation musicale des 17e, 18e et 19e siècle. Et ça, c'est maintenant aujourd'hui, on a aussi la chance d'avoir la Fondation Bru qui fait énormément de choses pour la musique romantique française. Et voilà. Et donc, c'est cette démarche qui est très germanique en fait. D'essayer de promouvoir et de défendre l'œuvre de créateurs du passé.
Louise Farin, donc compositrice, pianiste évidemment, mais du 19e siècle, vous nous dites qu'elle regardait déjà ce qui se passait par le passé. En fait, c'était un peu la même démarche que vous, mais
alors,
le 19e.
Alors, il faisait beaucoup pour le piano et la musique de chambre. C'était les premiers éditeurs de François Couperin. Enfin, alors, avec les erreurs d'édition qu'on connaît, parce que parfois, ces éditions, justement, ne s'embarrassaient pas de dire comment est-ce que le compositeur a voulu et réécrivait, transcrivait déjà rien que l'écriture musicale, parce que parfois c'est compliqué de lire des manuscrits anciens. Il y a même une science qui s'appelle la paléographie qui fait que comment est-ce qu'on lit aujourd'hui des œuvres de Monteverdi, etc. Moi, ça m'intéressait beaucoup. J'ai d'ailleurs fait de la paléographie quand j'étais à la Sorbonne. Et j'ai voulu commencer mes études par l'étude du Moyen-Âge et de la Renaissance, parce que je savais que c'est pas des musiques de chef, d'orchestre, pas du tout. Et donc, si je n'étudiais pas ça dans le cadre de mes études, eh bien, j'aurais pas forcément l'occasion plus tard d'avoir le temps de m'y intéresser. Or, ce background est extrêmement important pour comprendre la suite.
Ah oui, parce que là, ça vous a conduit très loin, mais il n'y avait pas l'écriture musicale que l'on a connue par la suite.
Ben, en fait, non, c'était une écriture totalement différente, avec des fuses, des minimes, et d'ailleurs, c'est très beau à voir. Enfin, vous avez sûrement déjà vu ça, c'est une espèce de losange avec des rampes et plusieurs queues, etc. Et c'est souvent très dur à lire, et les indications de tempo, tout ça va améliorer jusqu'à aujourd'hui, où quand on voit, par exemple, une partition de Stockhausen, donc il existe au moins 4 ou 5 signes sur la moindre note, qui est d'ailleurs presque un extrême inverse, on va dire. Ça c'est intéressant, et surtout à l'époque il y avait beaucoup de choses qui étaient notoirement à faire, on savait par culture que ça, bah, ça se faisait comme ci comme ça, et donc les compositeurs marquaient très peu de choses, et petit à petit ils se sont aperçus que finalement c'était une erreur, ils se sont mis à vraiment, quand la musique s'est européanisée, c'est-à-dire quand elle a commencé à voyager et que les cultures étaient assez différentes d'un pays à l'autre, ils ont commencé à marquer de plus en plus de choses sur la partition, mais à l'époque il y avait vraiment cette culture de bah oui, on fait ça comme ça, c'est normal, pour les petites notes, les appoggiatures, tout ça, c'était tellement connu, tellement notoire qu'on, le compositeur ne le marquait rien.
À quel moment a-t-on une écriture de la musique telle qu'on la connaît aujourd'hui ?
Oh bah c'est dans le courant du 19e siècle. Ouais. Parce que déjà, dans le style classique, il manque beaucoup de choses sur l'exécution, la pratique d'exécution. C'est pour ça que nous, avec ce centre de ressources qui s'appelle la Documenta, qui va être lancé bientôt au mois de juin, c'est un projet européen qui s'intéresse justement à donner les clés. Parce que finalement, ce mouvement historiquement informé, il est très récent, il a 60 ans.
Et c'est récent, oui.
Et donc c'est rien dans l'histoire de la musique, c'est rien. Et donc ce balancier-là, il est important qui perdure et surtout que la transmission se fasse. Parce que ça peut être balayé comme un rien.
Ah oui, la transmission, c'est vraiment au cœur hein, de tout ce qui nous intéresse hein, les uns les autres. La transmission de la musique, de l'histoire. Exemple avec Beethoven.
Le 26 mars 1827, vous allez mourir. Totalement sourd. Mais monsieur Beethoven... 4 siècles plus tard, on joue votre musique. On connaît votre histoire. Vous êtes indémodable, une référence. Vous allez inspirer une infinité de musiciens à travers le temps. Monsieur Beethoven, vous êtes simplement éternel.
Au début, tu m'as fait peur.
Je crois que t'as lui parler de ce vieux film, Beethoven, avec le chien. L'espèce de Saint-Bernard, là.
Beethoven, l'éternel, le moyen-métrage d'Avner Pérez en 2018. Oui, Beethoven est un compositeur, c'est aussi un Saint-Bernard dans un film à succès des années 1990. Cette transmission, Laurence Equilbet, est essentielle parce que donner à entendre et à comprendre au plus grand nombre et au plus jeune notamment.
Bah oui, c'est vrai que cet accès à ces répertoires qui parfois sont... très savant et demande une habitude. On ne peut pas demander à un enfant de CP de lire du Roland Barthes. Vous voyez, donc il y a un chemin vers l'art. Il y a un chemin. Parfois, dans la musique, on ne comprend pas trop qu'il y a cette progressivité à organiser pour les jeunes. Et effectivement, nous, à la scène musicale, on a un focus pour les jeunes gens parce que j'appelle jeunes gens, disons, entre 16 et 25 ans. Cet âge où il y a une révolution lente, mais il peut y avoir une révolution personnelle qui est importante et qu'il est important aussi d'accompagner. Et donc, effectivement, la figure de Beethoven est très intéressante parce qu'il a vraiment écrit de la musique à une époque où il y avait un grand progrès de l'esprit critique et où c'était cette fameuse future liberté de conscience. Et justement, là, on parle de la jeunesse. Moi, j'ai un projet avec Antonin Baudry et Pierre Buffin, là, des studios Buff, qui s'appelle Beethoven Wars. C'est Wars au sens des combats de Beethoven, et donc qui s'appuie sur deux musiques de scène que sont le Roi Stéphane et les Ruines d'Athènes, et qui s'appuient eux-mêmes, c'était pour deux pièces qui ont été écrites à l'occasion de l'inauguration d'un théâtre à Pest, donc qui s'appelait le futur Budapest, et donc qui loue le roi Stéphane, qui est le roi de Hongrie en l'an 1000, qui réconcilie les tribus en guerre, qui apporte la loi, qui apporte la charte de la loi, et la paix donc, et puis les Ruines d'Athènes, c'est l'histoire de barbares qui détruisent Athènes, et qui vont détruire aussi Rome, et qui est le message principal, c'est si on détruit des théâtres ici, on en reconstruira toujours ailleurs, puisque c'était pour l'inauguration d'un théâtre, et c'est là qu'on trouvera la sérénité, la paix. Et donc, il m'a semblé que ces deux partitions qui s'appuient sur ces pièces de théâtre qu'on ne joue plus, les partitions sont magnifiques, et donc on a transposé ces histoires édifiantes qui, à mon avis, pour la jeunesse, sont formidables. On les a transposées dans, justement, j'entendais parler d'exoplanètes tout à l'heure, on les a transposée dans l'espace, et sachant que la Terre existe encore, mais que les gens l'ont quittée parce qu'il y avait trop de guerres, ils sont partis explorer les exoplanètes, et donc on a transposé ça dans l'univers manga. Et de jeunes gens, justement, et qui finalement vont retourner sur Terre pour essayer de sauver Athènes, qui est dans les flammes, et où on revalorise cette charte de la loi, de la paix, et qui nous apparaît vraiment assez fondamentale pour cette jeunesse. Et voilà, donc effectivement, j'ai parfois quelques projets comme ça d'ouverture pour la jeunesse, pour qu'ils aient accès tout d'un coup à la musique, notamment ici, il s'agit de Beethoven, ressentir ce qu'elle veut dire, cette musique.
Louise Farenc, notamment, il y a toutes ces symphonies que l'on peut écouter, ici et là, orchestra, il y a toutes ces histoires. En fait, je le sens, hein, Laurence Equilbet, ce sont plusieurs transmissions. C'est pas simplement de dire, nous allons retrouver un peu ce qu'il était à l'origine d'un concert. C'est beaucoup plus vaste que cela. C'est une multitude d'histoires qui se croisent dans votre démarche.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que tout est ouvert, hein. Vous voyez, vous avez une partition, vous devez faire un opéra, par exemple, La Nonne Sanglante de Gounod, c'est un opéra gothique, et tout d'un coup, vous allez vous replonger dans le mouvement gothique, donc quel était le principal intérêt de ce mouvement, etc. Donc, en fait, à chaque fois que vous avez un projet, vous devez vous plonger dans son histoire.
Dans votre démarche, est-ce que vous avez l'impression d'être un peu une restauratrice? Vous savez, comme ces restaurateurs, restauratrices d'art qui ont une toile, on enlève le vernis, hein, qui a sali pendant des siècles une toile, pour retrouver un peu les couleurs d'origine.
Écoutez, moi je ne suis pas du tout dogmatique, donc il y a quelque chose qui participe de ça, ça vous avez raison, mais pour autant, comme on disait tout à l'heure, on cherche à faire que cette œuvre résonne dans son époque. Alors sans être démagogue, hein, mais on cherche cette clé de résonance et du coup, de toute façon, on fait des compromis tout le temps. Je crois que c'était Arnaud Court qui disait que si on faisait pas de compromis, on tuait forcément quelqu'un. Et donc le compromis, c'est comment on trouve cette résonance dans l'époque. Et les salles sont beaucoup plus grandes. Nous, on a 200 ans, 300 ans d'histoire de la musique dans les oreilles, etc., etc. Donc on est toujours très vivant et très libre. Voilà, c'est juste qu'on a aujourd'hui, et à juste titre, plus de respect pour l'œuvre telle qu'elle a été écrite.
Est-ce qu'il y a des compositeurs, des compositrices qui vous échappent encore? Ah là, j'y arrive pas. Là, il nous manque encore des choses.
À quel niveau vous voulez dire?
Pour retrouver parmi tout le travail que vous faites, eh bien, ce que voulait dire l'œuvre de manière la plus proche de ce qu'elle était à sa création.
Bah, écoutez, moi, par exemple, je n'interprète pas le XVIe siècle et très peu le XVIIe. Je prends vraiment le XVIIe très tardif. Donc, ces compositeurs-là, parce que moi, je suis chef d'orchestre, mais j'adore les écouter, hein, vous voyez. Mais, donc, je pourrais dire que oui, leur véracité m'échappe un peu, mais je fais confiance à certains collègues très talentueux pour me transmettre ces œuvres-là. Mais c'est pas que ça m'échappe, c'est juste que je m'en occupe pas, parce qu'on peut pas absorber. Si on a un peu cette rigueur historicisante, on va dire, c'est difficile d'absorber plus que trois siècles, je pense.
Et puis là, nous entendons un concerto. Laurence Equilbet, c'est ici un tout autre univers qui se dresse. Ce que je voudrais évoquer pour terminer, c'est combien toute cette histoire-là est une histoire incarnée. C'est vivant, ce sont des gens, ce sont des rencontres, ce sont des artistes, bien sûr, ce sont ceux qui travaillent sur les instruments, ce sont ceux qui y chantent.
Ah bah oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, quand il y a eu ce mouvement un peu radical au début, hein, tous les mouvements au départ sont assez radicaux en général. Par exemple, Léonard et Armancourt ont enregistré l'intégrale des cantates de Bach, d'accord, avec des chœurs d'enfants comme ça se faisait, même des chœurs de petits garçons comme ça se faisait exactement à Leipzig. Et ensuite, quelques années plus tard, Armancourt a commencé à faire ça avec des chœurs mixtes qui étaient un peu stylés quand même, qui n'étaient pas des gros chœurs romantiques, etc. Et il a eu vraiment plein de critiques de ses confrères qui ont dit oh, c'est quoi ce tu voilà, c'est la trahison, etc. Et donc vous voyez, typiquement, même les pionniers eux-mêmes ont été très ouverts sur, notamment sur le plan de la voix. Et il y a aussi une bizarrerie aujourd'hui, je trouve, dans ce mouvement là c'est que on fait beaucoup de recherches aux instruments, donc on arrive à une forme de son un peu, d'ailleurs parfois un peu caricatural, mais dont on se détache aujourd'hui. et avec des voix extrêmement musculaires, extrêmement avec une technique 19e-iste complète. Et donc parfois, par exemple, vous avez Cecilia Bartoli, que j'adore, hein, mais qui chante vraiment comme au 18e, comme au 19e, pardon, et avec parfois des orchestres baroques extrêmement radicaux. Donc là, vous avez une sorte de tension de style qui est assez frappante.
C'est ça, moi, ce que je retiens. On a dit au revoir à Vivaldi. Ce que je retiens de toute cette démarche et l'ouverture, hein, c'est combien il ne faut se priver de rien et pouvoir aller partout. Merci vivement, Laurence Equilbet. Alors, Insula Orchestra, bien sûr, il suffit d'aller sur les sites internet, bien dans son époque, Louis Farenc aussi. Il y a tant et tant à découvrir. Merci vivement à vous d'être venu dans le cours de l'histoire. Il est temps de poursuivre. Alors là, la musique et le chef d'orchestre s'appelle Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment.
Pourquoi la gauche préférait Jeanne Hachette à Jeanne d'Arc ? Jeanne l'aînée, qu'on appelait Jeanne Fourquet au XVIe siècle et qui a été surnommée Jeanne Hachette à compter du XVIIe siècle, est née à Beauvais vers 1454. Son nom est resté dans l'histoire en raison du rôle héroïque qu'elle a joué pendant la guerre qui opposait le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, et le roi de France, Louis XI. Le 27 juin 1472, Charles le Téméraire fit le siège de Beauvais. Comme la ville n'avait pas de garnison, ce sont les habitants qui montèrent au rempart pour défendre leur cité. Jeanne l'aînée saisit une hache pour attaquer un bourguignon et lui prit son étendard. Cet acte héroïque encouragea les autres femmes de la ville à se joindre au mouvement en apportant de la poudre et des armes aux combattants. Grâce à cette mobilisation populaire, les 80 000 assaillants furent repoussés le 22 juillet et l'avancée de Charles le Téméraire fut stoppée net. Pour récompenser l'héroïsme des femmes de Beauvais, Louis XI institua en leur honneur une manifestation publique qu'on appelle la procession de l'assaut, dans laquelle les femmes précèdent les hommes dans le cortège. L'année suivante, toutes les filles de Beauvais furent autorisées à revêtir les ornements que seules les femmes nobles avaient le droit de porter le jour de leur mariage. Des lettres patentes expédiées en 1474 par le roi font référence à notre chère et bien-aimée Jeanne l'aînée, fille de Mathieu l'aîné, demeurant en notre ville de Beauvais, en rappelant qu'elle gagna et retira de vers elle un étendard ou bannière des dits bourguignons. À Beauvais, l'action héroïque de Jeanne Hachette s'installa dans la mémoire collective, à tel point qu'aujourd'hui encore, tous les ans, le dernier week-end de juin, sont organisées les fêtes Jeanne Hachette ou fêtes de l'assaut. La grande place de Beauvais, ainsi qu'une rue de la ville, porte son nom. Un monument dédié à l'héroïne, inauguré en 1851, a été érigé sur cette place face à l'hôtel de ville. L'existence de Jeanne Hachette fut pourtant contestée au XIXe siècle par quelques érudits conservateurs. Au début du XXe siècle, ce personnage devint même un enjeu de mémoire. Pour contrecarrer le discours de la droite catholique qui tentait de récupérer Jeanne d'Arc à son profit, la gauche laïque s'efforça de présenter Jeanne Hachette comme un modèle alternatif d'héroïne féminine au service de la patrie. Ce clivage entre la droite et la gauche affecta aussi la ville de Beauvais, mais les élites trouvèrent un moyen de sauvegarder le consensus mémoriel. Le 28 juin 1921, par exemple, la presse indiqua que deux cortèges s'étaient formés dans la ville lors de la fête en l'honneur de Jeanne Hachette. Le défilé civil, parti de la mairie, était emmené par le maire, le préfet de l'Oise et le représentant des autorités militaires. L'héroïne était incarnée par une jeune ouvrière de Beauvais. Le second défilé était parti de la cathédrale, emmené par l'évêque de la ville, suivi par les élèves des écoles libres et par les membres des associations catholiques. Mais les deux cortèges se rassemblèrent devant la statue de Jeanne Hachette et 101 coups de canon annoncèrent les débuts des réjouissances populaires.
101 coups de canon, merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparé par une équipe, comme une chorale, un chœur avec un H, mais aussi un chœur avec les doigts. Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Vudès, Jeanne Coppet, Violette Ruiz, My When Bees You, Tom Undenstock et Alexandre Manzanares. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.
Elle a provoqué la pire catastrophe démographique de l'histoire de l'humanité, la peste.
L'exemple même d'une maladie qui est liée au développement humain et à la manière dont l'humanité s'est développée à une certaine époque.
Comme il l'a fait pour le choléra, le Covid, la variole ou le sida, le médecin Renaud Piarou, chef de service à la Pitié-Salpêtrière, va mener l'enquête pour vous. Mécanique des épidémies, 7e saison La Peste, un podcast de Renaud Piarou et Anne de Pelchin sur franceculture.fr et l'appli Radio France.